Rapide. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement.
1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller.
Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres.
Sophie Durocher.
Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous le sentez, le vent tourner? Le vent tournait de ce bord-là. J'ai comme l'impression que le vent est en train de tourner de l'autre côté. De quel vent je parle? De ce vent de rapidité et d'accélération des transitions, de genre chez les mineurs. Alors, je vous fais un petit historique juste des trois dernières semaines. Vous avez vu, entendu parler, en tout cas, de ce reportage à l'émission Enquête de Radio-Canada qui s'intitulait Trans Express, dans lequel reportage on parlait de ce phénomène de l'accélération chez les jeunes du phénomène de transition de genre, et les journalistes d'enquête ont placé des micros cachés, des caméras cachées chez une jeune fille de 14 ans qui est allée voir un médecin, et au bout de 9 minutes seulement, elle avait un petit papier pour utiliser des bloqueurs de puberté et faire une transition de genre à l'âge simplement de 14 ans. C'est un reportage qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup fait jaser. La semaine dernière, en Angleterre, on a interdit les bloqueurs de puberté chez les mineurs. Et aujourd'hui, en France, au Sénat, attendez, je vais vous lire exactement ce qui s'est dit. Un rapport de la droite au Sénat dresse un constat alarmant de la prise en charge médicale des mineurs en questionnement de genre. Il montre la prégnance, donc la prévalence, la présence d'une idéologie transaffirmative chez les professionnels de santé, accuse les associations transactivistes, donc les militants pour le genre, d'accélérer le parcours de ces enfants vers une transition de genre pouvant être irréversible. Une proposition de loi a été déposée pour interdire toute transition médicale en France avant l'âge de 18 ans. C'est pour ça que je vous dis que le vent tourne. Et ce n'est pas être transphobe que de se poser des questions sur la rapidité, la facilité, la façon dont on minimise la transition de genre chez les mineurs. Quand il y a quelqu'un qui a si peu que 14 ans, qui n'a pas le droit de voter, qui n'a pas le droit de fumer, qui n'a pas le droit de consommer d'alcool, qui peut demander des bloqueurs de puberté sans passer par les parents, ben je pense qu'il faut un petit peu se poser des questions. En tout cas, est-ce qu'il faut se poser des questions? Est-ce qu'on a le droit de se poser des questions sans se faire traiter de transphobe, simplement questionner la rapidité avec laquelle ça se fait? Je pense que c'était très bien illustré dans le reportage d'enquête, très bien illustré par le fait que l'Angleterre a agi et que là, semble-t-il, la France commence aussi à réfléchir à la possibilité d'agir et donc d'interdire toute transition médicale avant l'âge de 18 ans. Matière à réflexion.
Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher.
Nick Payne, analyste politique. Bonjour, Nick.
Bonjour, Sophie. Tu ne m'appelles plus analyste sociale ou...
Comme tu m'appelles... veux.
Oui, avant, tu disais...
Que maintenant, la mode est à l'auto-identification. Fait que tu as juste à me dire comment tu t'appelles aujourd'hui, puis je vais t'appeler. Veux-tu que je t'appelle Nicole ou Nick?
Je fais mon affirmation, là.
Ben oui. Ouais. Dis-moi, c'est quoi tes pronoms, puis c'est quoi ton titre?
Je suis pas habitué de dire ça, c'est il, lui, est-ce que c'est ça? C'est ça qu'il faut que je dise?
Bah, et puis sinon,
dans ton émission, je dirais commentateur social.
Bon, hein, parfait.
Quelque chose comme ça.
Alors regarde, ça, je change juste, ça à l'instant. Nick Payne, bon. Commentateur social. Donc, tu veux revenir sur ce reportage qui a été publié par le magazine Maclean's, donc l'équivalent anglais de l'actualité, qui est le seul magazine d'affaires publiques au Canada anglais. C'est important de le spécifier. Ils ont fait leur une avec un reportage qui disait « Adieu au Québec », parce qu'au Québec, on est vilain avec les pauvres anglos.
On est méchant.
Sophie,
on est tellement... On est habitué de lire des trucs comme ça, malheureusement. Si bien que faut sortir un peu de notre torpeur quand on s'y met. J'ai lu le texte, c'est un très long texte. On pourrait presque appeler ça une sorte de dossier ou de... En tout cas, c'est un long reportage, disons.
Oui.
Mais c'est absolument infâme, à vrai dire. Mais... Je suis tellement habitué que je lisais ça en bâillant tranquillement, parce que c'est la normalité. Alors, okay. Monsieur Mann, Mark Mann, c'est le nom du reporter, du journaliste, nous présente le Montréal qu'il a fantasmé, dont il se souvient dans les années 2000. En 2002, lorsqu'il était étudiant, il arrive à Montréal, et là, je te cite, il dit par exemple, « La ville entière semblait tellement confiante dans son bilinguisme que je n'aurais pu imaginer des tensions linguistiques. » Ah oui, écoute, c'était tellement bilingue à Pointe-aux-Trembles en 2002. Oui, c'est ça. C'était formidable. Ouais. Hein, sur le campus à Rivière-des-Prairies, non, mais tu sais. Et il continue comme ça, par exemple, en disant « Je l'admets, je demeurais dans une bulle anglaise, comme plusieurs étudiants, mais mon admiration pour, pourquoi tu penses, pour le bilinguisme était si forte que blablabla, blablabla. Le bilinguisme, tout est une affaire de langue et de bilinguisme. Mais essentiellement, pour lui, le Montréal idéal, c'est un Montréal canadien-anglais où on peut aussi avoir la fantaisie de parler français, puis apprendre un peu de français, puis demander où sont les toilettes en français quand on va au restaurant sur dans le bout de Milton. Puis,
ou frencher avec une fille en français, mais faire une bonne petite vie d'anglais. Oui. Ouais. Mais, et en fait, ce qu'il dit aussi, c'est que tout ça, donc le Québec était idéal dans le temps où tout allait bien, puis que c'était bilingue. Et là, pourquoi ça va plus bien au Québec? C'est qui monstre qui s'est emparé du Québec?
Oui, ça va plus bien. C'est vraiment malgré les Montréalais. Hein. Les Montréalais, c'est des êtres qui ont été, ils sont arrivés avec Raël en soucoupe volante. C'est des extraterrestres. Ils n'ont aucun ancrage national, culturel. C'est le peuple de Ballarama Holness. Hein. D'ailleurs, il nous achève à la fin du texte en nous parlant de Ballarama Holness qui veut un statut particulier pour Montréal. Mais donc, ça allait bien pour ce beau monde-là, mais malheureusement, l'ADQ puis la CAQ se sont fondés, comme chacun le sait, sur le ressentiment et sur la volonté d'un Québec blanc catholique, hein, traditionnel. Oui. Tout le monde sait ça.
Et le ressentiment envers ceux qui ne sont pas blancs et qui ne sont pas catholiques.
Absolument.
C'est écrit noir sur blanc dans le texte, là.
Oui, oui, oui. Et le rejet du cosmopolitisme à Montréal, hein, parce que le lien est fait dans le texte aussi. Quand on lutte contre l'hégémonie de l'anglais à Montréal, on se bat contre le cosmopolitisme. Ce qu'on veut, en fait, c'est un Montréal blanc, canadien-français. C'est ce qu'il dit, le monsieur. Là, j'ai à peine paraphrasé.
Oui, mais non seulement il dit ça, Nick, mais si je peux me permettre d'en rajouter une couche, il interview, par exemple, Serge Chasseville, qui est conseiller d'arrondissement, qui est responsable, donc, du centre-ville. Et Serge Chasseville, pour qui j'ai le plus grand respect, par ailleurs, nous dit, ben moi, je représente le Montréal que j'aime parce que je suis ouvertement gay et que je suis... mon conjoint est un homme musulman. Mais qu'est-ce que ça a à voir? Donc, ça veut dire que
Ça vient peser.
Non, mais c'est pour ça que c'est ce gars-là que le journaliste de McLean cite. Voilà un citoyen qui est exemplaire et qui est le Montréal qu'on aime. C'est un gay marié avec un musulman. Oui, mais je veux dire, ça veut dire que nous qui réclamons plus de Français, on est contre les gays, on est contre le musulman, mais c'est n'importe quoi!
Non, évidemment, mais c'est pas important parce que la réalité n'est pas importante dans ce texte. Le texte traite beaucoup, par exemple, toute la question du financement des universités anglophones. Alors, évidemment, c'est présenté comme une attaque, mais alors là, écoute, historique, monstrueuse contre les pauvres universités anglaises qui ont failli être décotées, imagine-toi.
Par Moody's.
Oui, c'est ça. Oui, mais c'est pas arrivé, hein, justement. Bon, ce léger détail. Mais jamais on ne parle des raisons pour lesquelles on a très modestement essayé ça à Québec, avant d'ailleurs de reculer à peu près à mi-chemin, là. Bien parce que la masse d'étudiants anglophones est désormais considérée comme un facteur important d'anglicisation à Montréal. Et là, il faut faire quelque chose. Aller de la Colombie-Britannique pour étudier en anglais à Toronto, ça ne pose pas ce genre de questions. Mais évidemment, au Québec, nous, Beaucave, on va financer à tour de bras des masses de gens qui viennent angliciser Montréal. À un moment donné, on est bien obligé de prendre certaines mesures. Ce qu'on a fait dans ce dossier-là, ce que la CAQ a fait, c'est agir un peu comme si le Québec était souverain jusqu'à un certain point. C'est ça qui ne plaît pas du tout. Le Montréal idéal de M. Mann, vraiment, on le lit bien dans ce texte, c'est un Montréal tout à fait canadien dans lequel le français est présent, mais optionnel. Et d'ailleurs, il dit aussi... la réalité est que le français ne décline pas du tout à Montréal.
Attends,
ça, c'est un mensonge.
Ah non,
absolu.
Mais c'est hallucinant. Mais comment se fait-il qu'à McLean's, oui, qui est quand même normalement un magazine sérieux, et il y a à McLean's, comme il y a dans les magazines, normalement, ce qu'on appelle un fact-checker. Alors, c'est quelqu'un qui, bon, tu soumets ton texte, quelqu'un qui va prendre les différents éléments où tu dis, ça s'est passé le mercredi, il pleuvait, il va aller vérifier dans le calendrier si le mercredi, il pleuvait bel et bien. Ben, je veux dire, à sa face même, cette information-là est fausse. Le gars, il dit que les arguments de la CAQ concernant le déclin du français sont des arguments simplistes. Mais je veux dire, y as-tu parlé? Alors, le rapport tout récent là du commissaire à la langue française qui parle de la langue parlée au travail... Mais je veux dire, pourquoi il ne laissait pas dans son article?
Non, le portrait qu'il brosse est très clair. C'est actuellement l'anglais qui menaçait Montréal. Ça allait bien autrefois lorsqu'on ne se posait pas la question de l'anglais à Montréal. Mais maintenant, ça va mal. Le français est en train de tout balayer sur son passage à Montréal. J'essaie de comprendre ce qu'il veut dire, M. Mann, mais ça revient à ça, en fait. Alors donc, le français ne décline pas du tout et ça va mal parce que la CAQ porté par un électorat, au fond, on va le dire, raciste ou xénophobe ou très, très centré dans le nationalisme ethnique, la porte au pouvoir et lui demande comme ça d'asséner des coups de politique fasciste sur le territoire montréalais. On parlait de fausses nouvelles cette semaine, puis tout le monde s'énervait parce que quelques chroniqueurs avaient débusqué des éléments de langage woke dans un jugement de la Cour suprême. Mais là, ici, on a une immense fausse nouvelle d'à peu près 51 paragraphes dans un magazine prestigieux du Canada anglais. Tu as parlé de fact-checkers. Ces gens-là, manifestement, y a pas dans leur livre, le chapitre Québec n'existe pas. Là. Ils peuvent vérifier les faits sur tout dans le monde, mais quand tu arrives au Québec, tu tombes entre les cracks. Il n'y a pas de chapitre.
T'as tout à fait raison.
Chapitre là-dessus.
On va dire ce qu'on veut et personne ne va nous le reprocher. On va terminer sur une chose, Nick, si tu permets, d'un point de vue personnel, parce qu'il nous raconte à un moment donné qu'il a fait un enfant. Son enfant, donc, est né au Québec et il dit... je suis gênée mon enfant naisse dans une province où il va lui bénéficier d'un privilège blanc alors que des minorités racisées sont stigmatisées par des mesures du gouvernement. Et il fait référence évidemment à la loi 21. Tu dis, attends deux secondes, le gars, il a publié ça dans le McLean's et le McLean's publie ça. Il n'y a pas de problème. Oui. Le Québec bashing a des beaux jours devant lui. Merci beaucoup, Nick Payne, qui est maintenant consacré commentateur social.
C'est comme tu veux, c'est de la guerre quand même.
C'est trop tard, c'est trop tard. C'est fait, tu t'es auto-identifié.
Commentateurophobe, oui, c'est ça.
Elle est très drôle. Merci, Nick Payne.
Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure.
Jean-François Barry va maintenant parler de mon sujet préféré. J'adore parler de ça, c'est de la musique à mes oreilles. Not!
La monarchie.
La monarchie.
Hey, mais je suis d'accord avec toi.
Heureusement que j'ai pris trois cafés ce matin, parce que sinon, là...
Je me doutais où tu te positionnais là-dedans. Puis écoute, demain, on vote contre la monarchie. C'est sûr que je vote pour me débarrasser de ça. Là. Moi, le sang royal, ça n'a pas de bon sens. Là. Je trouve que ça a l'air comme les Vikings qui disaient, si on égorge une vache, le bon Dieu va nous aider. Là. Je veux dire, c'est complètement sorti d'un conte de fées. Là. Ça n'a pas de sens. Et je comprenais pas non plus, puis là, je vais vous parler de ça à cause de la saga entourant Kate Middleton, je comprenais pas ceux que ça fascinait. Mm-hmm. Parce que ça fascine quand même des gens, là.
Ah, ça fait vendre de la copie, c'est sûr.
Mais là, je comprends. Est-ce que tu as écouté la série The Crown?
Bien sûr, parce que ça avait une importance historique et parce que, malgré mon dégoût et mon dédain et mon aversion fondamentale envers la monarchie, il reste que dans l'histoire du monde, le personnage de la reine d'Angleterre est extrêmement important et qu'elle a joué un rôle politique et historique essentiel. Après, totalement. Les affaires de couchette du prince Charles avec ses grandes oreilles en porte de grange, ça m'intéresse pas plus que ça, là.
Non, mais ça fait quand même partie de... Et là, moi, je te dis, je détestais au point où même The Crown, je ne l'ai pas regardé jusqu'à temps que la reine meure, puis j'ai fait, je vais la regarder. Mm. Et donc, je l'ai regardé quelques années après que ce soit sorti. Et là, j'ai aussi regardé depuis ce temps-là, ça a piqué ma curiosité. J'ai regardé le documentaire sur Meghan et le prince Harry. J'ai regardé ça, j'ai écouté des podcasts, des balados. Et là, j'ai compris, Sophie, que c'est l'ancêtre de la télé-réalité.
Ben oui.
C'est l'ancêtre du téléroman. Mmh. Puis d'ailleurs, Elisabeth le disait de son vivant, elle avait peur que, souviens-toi, dans une des scènes, elle avait peur que dans son jubilé, quand elle sort sur le balcon, qu'il n'y ait pas personne en avant, parce qu'elle dit, le jour où on ne suscite plus l'intérêt, les gens ne paieront plus pour nous. Ouais. Elle était consciente de tout ça. Et c'est exactement ce qui se passe présentement avec Kate Middleton et son opération et sa photo truquée. Et là, il y a une nouvelle vidéo. T'as vu qu'il y a une nouvelle vidéo d'elle qui sort du marché?
Écoute, très honnêtement, Jean-François, je le sais parce que c'est écrit ici dans ma feuille de route. Parce que c'est ça ton sujet, mais sinon, honnêtement, très, très, très honnêtement, quand ça parle de Kate Machin-Gus, puis Meghan Machin-Chose, puis Harry, puis William, puis toute la gang de parasites, je tourne les pages parce que...
Je tourne.
Non, mais ça m'écœure parce que au Québec, là, au Canada, ça nous coûte des millions de dollars à cause de la chef d'État.
Mais je suis entièrement d'accord. Entièrement d'accord. Mais maintenant, je le regarde comme une télé-réalité. Parce que dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que Kate s'est fait opérer.
C'est nous qui payons pour.
C'est une grosse télé-réalité, puis on paye pour ça. Kate se fait opérer, puis là, pendant un bout de temps, on n'entend pas parler d'elle.
D'accord.
OK, Kate Middleton. Ouais. Et là, ils sortent une photo pour la fête des mères, et ils se rendent compte que c'est une photo, pour les gens qui n'auraient pas vu l'histoire comme toi, que c'est une photo truquée. Elle est avec ses enfants.
À comme deux mains ou quelque chose, c'est ça?
Oui, ouais, ça fait pas de sens. Là. Il y a plein d'affaires qui font pas de sens. Il y a cinq erreurs sur la photo. Donc, c'est une photo truquée.
Ouais.
Et là, ça part. Puis là, les gens, ils essaient de trouver qu'est-ce qui peut bien se passer avec Kate. Es-tu en train de mourir? C'est-tu parce que là, elle est contre la monarchie? Parce que peut-être qu'il l'aurait trompée avec une journaliste. Et là, ça part. Et sais-tu pourquoi ils ne demandent pas? Parce que ça fait leur affaire.
Mais oui.
C'est ça qu'ils veulent. Il y a des scripteurs en arrière qui essaient de promouvoir la... Mais c'est vrai!
Parlez de moi en mal, mais parlez de moi.
Et là, c'était tranquille. Depuis que Charles est rentré, il se passait rien. Parce que Charles, il est plate dans un dans
Charles
une série,
est plate sur un moyen temps.
Dans un téléroman, t'as besoin d'un bon, d'un méchant. T'as besoin qu'il se passe de quoi? Il n'y avait rien, Sophie. Puis Kate Middleton, qui est le personnage principal, c'est celle qui est la préférée présentement, est parfaite. Mais ça, un personnage parfait, là...
Ça marche pas.
Ça marche pas dans un téléroman. Mm. Ça marche pas dans un film de Disney. Ça marche dans rien. T'as besoin d'action. Et là, cette affaire-là est arrivée. Parce que ça fait trois semaines là, que ça dure. Parce que là, les téléphones sont au supermarché. Puis là, il y a une vidéo d'elle. Mais là, les gens disent que c'est pas elle. Ce serait son sosie.
Oui, c'est ça. Alors, j'ai vu ça.
Il aurait engagé une doublure.
J'ai vu ça sur la feuille de route. Parce que ils sont allés interviewer une fille qui est habituellement son sosie.
Exact.
Et qui est utilisée, mettons, dans des films ou des trucs comme ça. Puis elle a dit non, c'est pas moi. Donc, il y a des chances que ce soit la vraie.
C'est ça. Mais
on est rendu là, aller faire des entrevues avec la sosie pour savoir si c'est elle qui a été.
Mais l'équipe en arrière se frotte les mains présentement. Eux autres, ils se disaient, hey, on est en train de tomber dans l'oubli. Qu'est-ce qu'on va faire? Arrive cette histoire-là. Parce que ça serait super facile de montrer une photo de Kate dans un fauteuil roulant, à la limite, parce qu'elle a eu apparemment une chirurgie à l'abdomen. Montrer qu'elle est en train de se remettre de ça. Puis elle nous fait un petit bonjour de la main. Puis ce serait fini. Mais c'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent qu'on continue de spéculer parce qu'ils sont partout présentement. Tous les sites Internet, tous les médias sociaux, les tabloïds, la même chose. Donc, ils ont trouvé une façon de revenir à l'avant-plan. Mais c'est complètement fou de penser parce que c'est du vrai monde, là. C'est pas un téléroman. Elle existe pour vrai, Kate Middleton. C'est capoté qu'ils fassent tout ça puis qu'ils veulent entretenir le mystère.
J'ai juste une chose à te dire.
Ouais.
1789. Ou quelques temps après, en France, ils ont coupé la tête du roi. Voilà.
Bon, ben là.
Pas tout le monde qui a le même rapport à la... Non, je dis pas qu'il faut leur couper la tête.
Non.
Je dis juste qu'il y a certains pays... Il y a certains... Non, mais c'est pas ça que je dis. Juste qu'il y a certains pays qui ont différents rapports avec la monarchie. De toute façon, on n'est plus en 1789. Mais je dis simplement que c'est pas tout le monde qui a le même rapport avec la monarchie. Puis nous, on est encore pognés quand même à avoir sur nos billets la tête de la reine maintenant remplacée par la tête du roi. Et tant qu'on ne sera pas devenu un pays et on ne pourra pas se se débarrasser de ce truc, mais ringard, dépassé. Écoute, l'idée, comme tu le disais au début, là, que quelqu'un a une job à cause de qui c'est son papa.
Mais non, ça c'est
antidémocratique, ça tient pas debout.
Ça fait pas de sens, c'est tous les privilèges qu'on leur donne. Voyons. Il y a rien de ça qui fait du sens, je suis d'accord.
Bon.
Mais moi, de voir l'équipe en arrière, ça me fait penser à Hunger Games. Tu sais, le film Hunger Games. Là, ils mettent dans... Puis là, il y a quelqu'un en arrière qui écrit le scénario qui fait
oui.
On va lancer des loups là pour faire. C'est la même affaire. Il y a une équipe derrière la famille royale qui s'occupe de faire en sorte qu'on parle d'eux autres. Parce que si on parle pas d'eux autres, il n'y aura plus personne au jubilé. Puis le jour où il n'y a personne au jubilé, on ne payera plus pour eux autres, puis ça va être la fin.
Fait qu'ils s'arrangent
pour entretenir cette télé-réalité-là.
Bon, alors la télé-réalité monarchique, une chronique signée Jean-François Barry, voilà. Qui est le roi de la chronique.
Oh.
La comprends-tu? Ouais. Merci beaucoup, Jean-François Barry.
Hey. Ben, bonne journée.
Professeur Duduche. Avec elle, pas de retenue.
Ce matin, dans le journal La Presse, il y a une caricature et qui fait controverse. Et ben, vous le savez peut-être si vous m'écoutez ou si vous me lisez dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, je vais toujours défendre la liberté d'expression, la liberté de caricaturer. Je l'ai fait à l'occasion des attentats terroristes islamistes à Charlie Hebdo. J'ai dit à l'époque que j'étais Charlie et je suis encore Charlie. Comme vous le savez aussi, la liberté d'expression a deux limites. La première limite, c'est la diffamation, et la deuxième limite, c'est l'incitation à la haine. La caricature en question, qui était publiée dans la presse ce matin, montrait le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou sous les traits de Nosferatu. Ça a été dénoncé par beaucoup de gens. On la voit en ce moment à l'écran, cette caricature. Ça a été dénoncé par beaucoup de gens parce que peut-être que certains ne s'en souviennent pas, mais beaucoup s'en souviennent. Au pire moment de la propagande nazie, les Juifs étaient représentés sous les traits d'un personnage du style de Nosferatu, donc quelqu'un d'assoiffé de sang avec un grand nez comme ça pointu et des ongles menaçants. Donc, ben, y a beaucoup de gens qui ont dénoncé cette caricature. Depuis, la presse a retiré la caricature en question et ils se sont excusés. Moi, j'avais envie de parler tout ça avec Etta Youdine. Elle est vice-présidente Québec pour le Centre consultatif des relations juives et israéliennes, le CIJA. Etta Youdine, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Alors, si on fait la chronologie de la journée, ce matin, la caricature est publiée. Vous, pendant la journée, vous dénoncez la caricature sur les médias sociaux. Je pense que vous avez contacté également directement la presse. La presse s'est excusée, vous a écrit. Est-ce que vous êtes satisfait au moment où on se parle, 3h30, du fait que la presse ait retiré la caricature et qu'elle se soit excusée?
Regarde, il faut dire que oui, c'est vrai, ils l'ont retiré assez rapidement, et c'est vrai qu'il y avait plusieurs, ça faisait du bien parce que pendant cette période d'antisémitisme inquiétant, hallucinant, de voir tant de Québécois réagir à cette caricature est rassurant d'une manière.
D'accord.
De l'avoir retiré rapidement, absolument, d'avoir des excuses, mais là, ça n'adresse pas le vrai problème parce que le fait que quelqu'un a décidé de publier cette caricature sans se poser la question est-ce que ça dépasse, comme vous l'avez très bien dit, les limites de l'expression, de la liberté d'expression, sans vraiment savoir que c'est vraiment un exemple classique des tropes antisémites. C'est pas quelque chose en marge, il faut savoir, il faut étudier, c'est vraiment si on veut montrer un exemple des tropes classiques d'antisémitisme, on va trouver une photo comme ça. Alors, oui. De l'avoir imprimée dans les pages ou le site de la presse est inquiétant. Et la troisième chose qu'on a demandé à la presse, c'est justement de faire place dans leur page pour expliquer l'antisémitisme. Parce que c'est clair qu'on a toujours besoin. Si on regarde dans les rues, si on regarde ce qu'on voit dans les plateformes, dans les réseaux sociaux, c'est clair que le message ne passe pas.
Ouais.
Il y a un problème. Vous l'avez dit à plusieurs fois, mais il y en a plusieurs qui ont besoin de le dire. Et on leur demande de faire place dans leur page, justement, pour expliquer,
je comprends.
Pour soulever la polémique.
D'accord. Et pour l'instant, donc c'était votre troisième demande à la presse, la première qu'on retire la caricature, la deuxième des excuses et cette troisième demande de vous donner de la place entre leurs pages pour dénoncer l'antisémitisme. Ils n'ont pas, pour l'instant en tout cas, répondu à cette demande. Je veux juste faire un petit peu un portrait des lieux, Etta Youdine, si vous le permettez. Alexandre Boulris, Pascal Saint-Onge, Justin Trudeau en chambre, me dit-on, ont tous et chacun dénoncé cette caricature de la presse. Je vois également sur le site de B'nai B'rith Canada que le président de la presse, c'est pas rien, Pierre-Éliott Levasseur, a appelé B'nai B'rith Canada pour s'excuser personnellement pour cette caricature en disant que c'était complètement inacceptable et qu'il a appelé donc B'nai B'rith pour dire à quel point il était désolé, qui dit que c'est tombé entre les cracks et qu'il était à court de mots. Justin Trudeau en chambre, qui dénonce une caricature de la presse. Certaines personnes pourraient dire, mais de quoi le politique se mêle? Est-ce que c'est le rôle du politique de se mêler d'une décision éditoriale d'un journal? Vous pouvez comprendre quand même, Madame Youdine, qu'il y a peut-être des gens qui pourraient s'inquiéter d'un point de vue journalistique, de dire, ben là, il y a peut-être un dérapage. Est-ce que c'est le rôle du politique de se mêler de ce que publie un journal?
Là, on ne parle pas de question de se mêler dans ce qui publie un journal. On ne parle pas de biais ou de perspective ou d'opinion. Là, on parle de l'antisémitisme pur et classique. Et c'est la responsabilité de tous, incluant la classe politique, justement, de condamner l'antisémitisme. Et le fait qu'il y en a certains qui le font, c'est parfait, parce que le niveau d'antisémitisme, on a un vrai problème dans le monde, au Canada et au Québec, avec l'antisémitisme. Et si tout le monde disait « Ah, c'est pas mon problème, c'est pas mon affaire », on n'arriverait jamais à une solution. Le fait que tout le monde s'est poigné là-dessus, et c'est sûr que c'est une des choses qui leur a encourager d'agir tellement rapidement, mais non, c'est l'affaire de tous et on regarde nos dirigeants politiques pour en faire plus contre l'antisémitisme. C'est pas en condamnant une caricature qu'on va finir avec le problème.
D'accord. Je tiens à préciser également, parce que je la suis sur Twitter, Deborah Lyons, qui est la commissaire à la lutte contre l'antisémitisme, qui elle aussi a dénoncé la caricature et qu'elle a dit qu'elle allait appeler personnellement la presse, donc on ne sait pas si elle l'a fait ou pas, mais le résultat c'est que la caricature a été retirée. Tout ça est extrêmement inquiétant parce que, comme vous le dites, Etta Youdine, il y a une montée de l'antisémitisme en ce moment. Et il y a autre chose dont j'aimerais vous parler. Ça se passe en Ontario, dans la ville de Hamilton. Il y a un cinéma qui avait été approché par la Fédération juive de la région qui leur a demandé de présenter un festival de films juifs en avril. Et ils ont reçu tellement de courriers, d'appels et de menaces que le cinéma a décidé d'annuler la présentation du Festival de cinéma juif parce qu'ils considéraient qu'ils n'étaient pas capables d'assurer la sécurité des gens. Qu'est-ce que ça vous dit, ça, Etta Youdine?
C'est une mauvaise décision. Et oui? C'est un geste qui reconnaît que ceux qui essaient d'alimenter la haine, les chants de haine dans la rue, les manifestations contre les communautés juives, que ça marche. Ça leur envoie un message que si vous continuez à faire vos manifestations, à bloquer, barricader le centre communautaire juif, des étudiants sur les campus universitaires, là, ça va marcher parce qu'on va tout annuler. On peut pas risquer d'envoyer ce message comme société, ni à Hamilton, ni au Québec, ni partout. On doit se tenir debout et dire que ceux qui vont agir de cette manière vont avoir des conséquences dures et sévères, et on ne va pas normaliser ce genre de comportement dans notre société. Sinon, on va avoir à chaque lundi des manifestants dans les centres d'achat, sur le pont, sur nos campus universitaires. Ça va finir où exactement? Juste parce que ça commence avec la communauté juive? Ça ne finit jamais avec la communauté juive. Et non, on n'est pas content de cette décision. C'était la mauvaise décision.
D'accord. Même si t'es motivé par des raisons de sécurité. Juste qu'on revienne à cette caricature de Serge Chapleau dans la presse. Quand je j'ai su que je vous interviewais à ce sujet-là, je me suis dit, tiens, je vais aller vérifier. Donc, je suis allée sur les médias, enfin, je suis allée sur Internet, j'ai fait une recherche Google, j'ai demandé à Google de faire une recherche, j'ai mis Joop, je me suis dit, je vais le faire en anglais, il risque d'y avoir plus de matériel que je fais juste la recherche en français. Donc, j'ai mis Joop et j'ai mis Nosferatu. Et j'ai tapé sur images. Et ben, je comprends pas pourquoi Serge Chapleau n'a pas fait cette recherche-là hier quand il a fait son dessin. Parce qu'on fait Joop, Nosferatu, et on est inondé d'images de l'époque nazie où il y a des références claires. Le personnage de Nosferatu, le juif assoiffé de sang, c'est pas anecdotique, là.
Non, et là, je reviens au début de notre conversation. On veut absolument que la presse et d'autres consacrent leur page justement pour parler de ce qui se passe avec l'antisémitisme. Parce que c'est vrai, ça prend une recherche de 30 secondes sur Google, mais si on regarde nos rues, si on regarde ce qui se passe, si on regarde la chambre de commune, hier, d'avoir la politique étrangère du Canada dictée par les radicaux anti-israéliens au NPD et au Bloc québécois. Alors, on s'est rendu où, là? Il faut...
Oui, mais je pense qu'il faut faire, Madame Yudin, en tout respect, je pense qu'il faut faire une distinction entre, je pense qu'on peut critiquer le gouvernement de Benjamin Netanyahou. On peut demander un cessez-le-feu, on peut demander la libération des otages, on peut faire des motions à Ottawa. Il y a ça et il y a l'antisémitisme. Vous faites un lien entre les deux, c'est parfait, ça vous appartient, mais je pense que ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est quand on associe un personnage comme Netanyahou à Nosferatu assoiffé de sang, qui est un rappel de l'idéologie nazie. Je pense que c'est là que c'est problématique. Mais il y a des gens qui vous diraient, Madame Yudin, on peut critiquer Netanyahou sans se faire traiter d'antisémite. Vous les répondez quoi à ces gens-là?
Mais absolument, il faut critiquer. C'est l'esprit de la démocratie. Il faut critiquer, il faut poser des questions. Et c'est sûr que Netanyahou, comme tout autre dirigeant d'un pays démocratique, est subi à chaque heure par de critiques par sa propre population. Si on veut regarder la critique forte de Bibi Netanyahou, on a seulement à regarder un journal en Israël, les médias en Israël,
oui,
pour voir des
très critiques.
Très sévère pour Netanyahou. Là, on parle pas de critique. Justement, vous avez résumé très effectivement. C'est les stéréotypes antisémites, c'est les tropes antisémites, c'est un message. Là, cette caricature n'est pas un message à Bibi, c'est un message aux Juifs.
D'accord. C'est comme ça que vous le percevez. C'est comme ça que vous le percevez. Et je pense que de toute façon, je vais lire quand même un tout petit extrait, puis on va se quitter là-dessus, de Stéphanie Gramont, donc qui est l'éditorialiste en chef de la presse. Elle dit, la presse tient à s'excuser à propos de la caricature intitulée « Nosferatu en route vers Rafah » publiée mercredi. Elle dit, le dessin se voulait une critique de la politique de Monsieur Netanyahou. Il était malheureux de dépeindre le premier ministre sous les traits de Nosferatu le vampire, puisque ce personnage de cinéma a été repris par la propagande nazie lors de la Deuxième Guerre mondiale. Comme des lecteurs nous l'ont fait remarquer après la publication, nous n'avons jamais eu l'intention de véhiculer des propos antisémites ou des stéréotypes nuisibles. Au contraire, la presse a déjà dénoncé haut et fort la déplorable montée de l'antisémitisme depuis le début de la guerre au Québec comme ailleurs dans le monde. C'est vrai, ils ont fait quand même plusieurs articles là-dessus et même des reportages en Israël et des reportages ici. Etta Youdine, ben c'est une drôle de journée quand même qui a commencé de façon très étrange. C'est vraiment une caricature très surprenante. Et donc, je rappelle que la presse a quand même retiré cette caricature et présenté des excuses. Je rappelle que vous êtes vice-présidente pour le Québec pour le Centre consultatif des relations juives et israéliennes. Merci et bon courage pour la suite des choses.
Merci à vous.
Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre,
Sophie Durocher.
Alors, vous vous souvenez, c'était en 2016 et le scandale Jutras a éclaté. Une biographie de Claude Jutras révélait qu'il avait, qu'il aurait eu des relations avec des jeunes mineurs, des relations non consentantes, bien entendu. De toute façon, le consentement est impossible en bas de 16 ans. Et il y a un documentaire extrêmement bien fait de Jean-Claude Coulbois qui retrace justement ces 11 jours en février. Le documentaire s'intitule 11 jours en février. Il va sortir en salle ici au Québec le 29 mars. Mais dès maintenant, j'avais envie d'en parler avec Jean-Claude Coulbois, vu que j'ai vu le documentaire hier soir. Monsieur Coulbois, bonjour.
Oui, bonjour.
Pourquoi vous êtes intéressé à l'affaire Jutras?
Parce que à l'époque, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Ça s'est passé très, très vite. Ouais. Et c'était énorme, et j'ai pas compris.
Qu'est-ce que vous avez pas compris?
Comment, en 3 jours, parce que, en fait, moi, j'ai mis 11 jours avec les tenants et aboutissants, mais ça s'est vraiment passé en 3 jours. Comment on pouvait réécrire l'histoire d'une façon aussi, en 2 coups de cuillère à peau? Je veux dire, c'est vraiment, non, on peut pas faire ça. Je veux dire, il y a des allégations anonymes, ça concerne quelqu'un qui est décédé depuis 30 ans. En fait, c'était ça le problème qu'on avait en 86. Ouais. C'est, il y a des allégations, ça concerne quelqu'un qui est décédé depuis 30 ans, mais son nom, après sa mort, a été célébré. Claude Jutras, c'est sans doute le cinéaste québécois le plus célèbre.
Absolument. Alors, il faut rappeler, donc, pour ceux qui s'en souviennent pas, 2016, dans les jours, vraiment dans les heures qui ont suivi, on a retiré, donc, le festival, le gala de cinéma ne s'appelait plus le gala des Jutras. Une statue qui était en hommage à Claude Jutras était enlevée de terre. On demandait à la toponymie de retrouver tous les endroits où il y avait des rues Claude Jutras ou des parcs Claude Jutras à travers la province pour faire enlever ça. On a pris une grande gomme à effacer et on a effacé donc l'héritage de Claude Jutras. Dans votre documentaire qui est très bien fait, Monsieur Coulbois, vous donnez la parole à beaucoup de gens qui se scandalisent de ça. Est-ce que vous auriez pu donner plus la parole à des gens qui trouvaient que c'était justifié de le faire?
Écoutez, j'ai travaillé 7 ans sur ce projet-là. J'ai rencontré à peu près 80 personnes au fil des années, échelonnées sur 7 ans. J'en ai filmé 20. Et j'en ai gardé 12 à peu près.
D'accord. Mais avec un parti pris quand même, avec un angle. Ce qui vous appartient, là, vous avez tout à fait le droit. Mais vous avez un parti pris. Oui.
J'ai toujours été clair sur mes intentions de dire, 1, j'ai pas compris ce qui s'est passé. 2, je veux comprendre l'enchaînement des événements qui ont entraîné une réécriture de l'histoire.
Oui.
Ça, c'était mes intentions. Et le film s'est fait là-dessus avec les rencontres, les archives que j'ai trouvées, d'autres archives que j'ai pas trouvées, parce que c'est un documentaire. Le film s'est fait sur 7 ans et jusqu'à la fin du montage image, il y avait encore des enjeux. Est-ce qu'on va jusque là? Est-ce qu'on parle de ça ou pas? Je veux dire, c'est un processus vivant.
Ouais.
Et je pense que le film.
Et le film en tient compte. Mais il y a deux temps, selon moi, selon mon humble opinion, il y a deux temps dans l'affaire Jutras, c'est-à-dire que dans un premier temps, il y a le livre de Yves Levert et les révélations, comme vous le dites, qui sont anonymes. Par contre, dans les jours qui ont suivi, il y a eu un personnage qui s'appelle Jean, donc qui est quand même anonyme, mais qui a donné une entrevue à Hugo Pilon-Larose dans la presse, dans laquelle il décrit le fait qu'il a été victime de pédophilie, d'actes de pédophilie de la part de Claude Jutras de l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 16 ans. Pour moi, c'est une étape supplémentaire dans l'affaire Jutras. Puis après, il y a eu Bernard Dansereau, évidemment, qui lui aussi a témoigné d'une tentative, en tout cas de la part de Claude Jutras à son égard. Il avait, je pense, 14 ou 15 ans à l'époque. Selon moi, à partir du moment où il y a le deuxième témoignage, il y a le témoignage de Jean, est-ce qu'on peut vraiment continuer à se fermer les yeux là-dessus, Monsieur Coulbois? Autrement dit, si Dieu nous en préserve, mais si Claude Dutrosse en était pris à mon fils de 6 ans, jamais j'aurais accepté qu'un prix de cinéma porte son nom. Jamais. Jamais. J'aurais été dégoûtée.
Mmh. Mais vous semblez dire que je doute de l'accusation. Pas du tout. Je veux dire, c'est pas... Une des premières personnes que j'ai rencontrées, c'était à l'automne 2016, c'est Croque de Mers. Je le rencontre une première fois parce qu'il venait de faire des déclarations, parce qu'il était dans le déni des accusations.
Oui.
Un mois après, à ma deuxième rencontre, Rock me raconte qu'entre-temps, il a été appelé par deux garçons qui travaillent dans le milieu du cinéma. Deux garçons qui ne se connaissent pas nécessairement, séparés. Les deux garçons ont dit à M. Demers, on aimerait vous rencontrer, on va vous raconter ce qui nous a fait, Claude Demers, Claude Dutrosse.
Oui.
Et moi, quand il m'a raconté ça, Rock, il était complètement bouleversé. À partir de là, il a écrit une lettre où il s'est rétracté sur...
Oui.
Bon. Moi, quand il m'a raconté ça, je l'ai cru.
Oui.
Je veux dire, oui, c'est quelqu'un... J'ai commencé le film avec lui et avec Thomas Vamos. Pour toutes sortes de raisons. Oui. C'était les deux premières personnes que j'ai filmées.
Ce qui est intéressant dans votre film, si je peux me permettre, puis c'est un compliment que je vous fais, c'est que je regardais le film qui dure une heure et demie, et à toutes les deux minutes, je changeais d'avis. Parce que vous interviewez quelqu'un, puis je dis « Ah ben oui, c'est vrai, il y a raison, c'est allé beaucoup trop vite, ça n'a pas de sens. » Puis après, vous interviewez quelqu'un, puis là, je dis « Ben oui, c'est vrai, il y a raison, c'est dégueulasse, c'est absolument ce qu'il a fait. Ils ont bien fait de retirer le nom des Jutras. » Après, vous interviewez Denis Arcand qui est fabuleux, qui dit « Ben écoutez, le gouvernement québécois, ils sont toujours lents, ils se traînent les pieds, c'est des savates, c'est toujours lent. Mais quand il s'agit d'enlever le nom de Dutrosse, tout d'un coup, ça se fait en deux jours en claquant des doigts. Je dis, ah ben tiens, il y a raison, Denis Arcand. C'est ça qui est formidable dans votre documentaire, c'est qu'on est confronté à justement ce dilemme qu'on a, où on se dit, ben, c'est quelqu'un qui a posé des gestes manifestement dégueulasses. Est-ce que ça s'est fait trop vite? Est-ce qu'on est allé trop loin? La question reste entière quand même à la fin du documentaire.
Absolument, absolument. Mais vous savez, une des premières phrase que j'ai écrite sur ce projet-là, c'était de dire c'est pas un film sur Claude Dutrosse, c'est pas un film sur la pédophilie, c'est un film sur nous, en
la
février 2013. Quand on est pris avec ce problème-là, qu'est-ce qu'on fait?
Ouais. Et il y a Jean-Claude Hébert qui est fabuleux. Le jury Jean-Claude Hébert qui ramène présomption d'innocence. J'encourage tout le monde à aller voir ce film-là quand il va sortir le 29 mars parce que ça nous pose vraiment des questions et on reste avec la question fondamentale. Si Claude Dutrosse avait été un plombier, est-ce qu'on n'aurait pas en effet agi extrêmement rapidement pour enlever son nom partout? Je pense que personne n'aurait voulu faire venir le plombier Dutrosse chez lui si on avait su qu'il avait agressé un petit enfant de 6 ans. Jean-Claude Coulbois, merci pour ce film qui s'intitule 11 jours en février, qui prend l'affiche le 29 mars. Merci beaucoup, Monsieur Coulbois.
Merci. Au revoir.
Sophie Durocher.
Un savoureux mélange artistique de culture et d'information.
Normand Lester est mon prochain invité pour le 22e chapitre de la saga des espions chinois au Canada. Écoute, je lis tes chroniques là-dessus, Normand, là, puis j'ai l'impression qu'au Québec, c'est les guignols qui surveillent les espions. Mais c'est une passoire, le Canada?
Ben, c'est un peu à cause du gouvernement libéral de Pierre Trudeau. Pense à tout ça vraiment, là, ce qu'on a appris là, depuis...
De Pierre ou de Justin?
Oui, oui. Les révélations qu'on a apprises depuis un an là, sur l'ingérence chinoise dans la politique canadienne. Et tu parles des services secrets. Mais les services secrets, ça fait une dizaine d'années dans des rapports, dans des déclarations du directeur du SCRS qui disent « Attention, les Chinois s'infiltrent partout au Canada. Attention ». Il y a des élus en Colombie-Britannique, il y a des élus en Ontario qui sont financés par les Chinois. Et puis, on a les révélations là où ils agissaient massivement pour essayer de s'infiltrer aussi ou de faire battre des candidats conservateurs aux dernières élections fédérales parce qu'ils voulaient absolument que les libéraux et que Pierre Elliott Trudeau soient élus, eh bien, ils ont réussi. Écoutez, il y a une enquête actuellement qui est menée par la juge Hogg, là, sur l'ingérence chinoise, donc dans la politique. Mais là, on apprend que ça va beaucoup plus loin. Ça va aussi dans les sciences. Encore une fois, dans ce domaine-là aussi, les services de sécurité canadiens mettent les universités, les grandes entreprises, les centres de recherche en garde. Attention à l'infiltration chinoise. On le sait, il y a quelqu'un d'origine chinoise qui travaillait pour Hydro-Québec, qui a fait face à des accusations ici. Donc, c'est une opération massive. Pourquoi? Parce que, bien sûr, c'est plus facile d'infiltrer des organisations canadiennes que des organisations américaines.
Ben oui.
Et une fois que vous êtes incrusté ici, ben, vous pouvez aussi collecter des informations aux États-Unis. Et puis, écoutez, c'est vraiment quotidien. Dans les journaux aujourd'hui, on apprend qu'effectivement, aux États-Unis, le FBI a arrêté deux Chinois parce qu'ils transmettaient à la Chine des secrets industriels. Donc, ils avaient pour mission de voler aux États-Unis.
Mais dans,
dans le cas que je rapporte ce matin dans le journal...
Parle-moi, Madame Q, Dr. Q.
C'est absolument incroyable.
C'est fou, j'adore cette histoire.
Elle dirigeait, hein, c'était devenu un cadre là dans le principal centre de recherche en virologie du Canada. Elle avait placé son mari aussi à un autre niveau et les deux, pendant des années, volaient des secrets industriels, volaient même des pathogènes qu'ils amenaient en Chine.
Mieux que
ça, chaque année, elle prenait...
Deux mois de vacances.
Elle dit que c'était pour aller, vous savez, se reposer en Chine. Mais là, une fois rendue à Chine, elle travaillait activement dans un centre de recherche de l'armée chinoise pour continuer à développer les choses qu'elle avait prises du Canada et qu'elle avait rapportées en Chine. C'est tout.
Normalement,
ça se fait. Donc, on découvre en 2019 le poteau rose. Et là, qu'est-ce qui arrive? Ça prend 2 ans. On dit, OK, on découpe là, de toute connaissance, de toute information secrète ou dangereuse, mais ça prend 2 ans avant que ça sorte. Et ça sort.
Les guignols.
Pourquoi? Parce que Trudeau avait peur, bien sûr. Il y avait déjà les conservateurs qui l'accusaient de laisser faire de l'ingérence au Canada. Parce qu'il y avait toutes sortes de monde dans l'entourage de Trudeau qui étaient manifestement des sympathisants chinois. Donc, ça a pris 2 ans avant que ça sorte. Puis là encore, regarde toutes les tribulations au sujet de l'ingérence politique qui ont lieu depuis 1 an. Hein? Ça a pris combien de temps? D'abord, il a nommé un sympathisant chinois, l'ancien gouverneur général Johnston, pour faire une enquête. Là, ça a fait un tollé au niveau de l'opposition. Il a dû retirer ça et donner ça à la juge Hogg qui mène l'enquête actuellement, puis on va voir ce que ça va donner.
Mais alors, je te donne un défi. Si toi et moi, on s'assoyait, parce qu'on était amis dans la vie de tous les jours, si on s'assoyait puis qu'on écrivait un scénario loufoque là, d'un espèce d'espion canadien à la X-13 qui serait un petit peu, mettons, maladroit, puis tout ça, ce serait oui, l'inspecteur Clouseau dans la Panthère rose.
Oui.
Et puis, ben, ce serait en dessous de la réalité, parce que la réalité est 4 fois pire que ça. Je suis complètement découragée. C'est absolument hilarant. Enfin, si c'était pas à pleurer, ce serait à rire. Merci beaucoup, Normand Lester. Toujours un plaisir de te parler. J'encourage tout le monde à aller voir ta chronique intitulée « Espion chinois au Canada, mission accomplie ». Merci tout le monde. On se retrouve demain. Kid.